Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Au Premier Loge spécial séries éliminatoires d'Amicale d'Hockey 2023. Pour l'occasion, ça va être encore moi, Dwayne Ibrahim, qui va être à l'animation de cet épisode. Et on est deux. Cette fois-ci, je vais être accompagné pour la première fois depuis un an déjà de Thomas Lafont. Tom, comment vas-tu?
Non, mais
je parle Au Premier Loge spécial séries éliminatoires.
Oui, c'est ma première fois. Cette année, oui, écoute, j'ai eu une dernière semaine à s'occuper, mais très content de venir faire mes débuts 2023.
C'est toujours un plaisir d'être avec toi. D'habitude, on fait quand même beaucoup de podcasts ensemble. Là, fait que c'est pas la première fois qu'on est ensemble, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Bon, Tom, on va revenir sur les quatre rencontres qui ont eu lieu hier soir. D'abord, on va aller du côté de l'Est. On va commencer avec le quatrième match entre les Devils de New Jersey et les Rangers de New York. Les Rangers qui menaient 2-1 avant cette rencontre-là. Finalement, les Devils ont réussi de New York avec une égalité 2-2 grâce à une victoire de 3-1. Les marqueurs du côté des Rangers de New York, Jack Hughes qui a marqué encore une fois hier. Son troisième but dans cette série. Jonas Seguin-Tala qui a marqué la victoire pour les Devils et André Palat qui a marqué le filet des arts. L'unique marqueur du côté Rangers de New York, c'est Vincent Trocheck qui a enfin ouvert son compte dans cette série-là. Tom, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Qu'est-ce qui explique en fait ces deux derniers matchs? Surtout qu'en allant du côté des Rangers de New York, les Rangers avaient clairement le dessus après les deux premières rencontres.
Oui, vraiment. Écoute, après le deuxième match, je me suis dit, peut-être que les Devils vont en gagner une, mais ça m'étonnerait que ça se termine à plus loin qu'en 5. Les Devils vont vraiment...
Oh, on t'entend pas. On t'entend pas, Thomas, t'as un problème. Non, on t'entend pas, Thomas. Mais je comprends que tu dis que... Je suis même avec toi que tu disais que les Devils du New Jersey avaient très mal commencé la série. Tom, est-ce qu'on
oui,
t'entend?
Bon,
vas-y.
Okay. Oui, donc, je disais qu'ils sont allés à New York dans une aréna très hostile. On réussit à remporter deux games. Où est-ce que les Rangers sont quand même sortis assez fiables, surtout hier. On sentait que les Rangers manquaient de hargne, la foule était très tranquille, surprenamment aussi au MSG. Il y avait toute cette énergie pour les Knicks, il faut croire. Mais ça, du côté des Rangers, je me serais attendu à plus de combativité, mais vraiment, les Devils qui ont sorti un bon match défensif de série, comme s'ils faisaient à l'époque de Jacques Lemaire et de la fameuse trappe. Vraiment, c'est une grosse performance des Devils.
Ouais, je suis ça d'accord avec toi. Écoute, quand même, il faut le dire, là, Akira Schmid, depuis qu'il est revenu en relève de Vitek Vanecek au match numéro 3, même au match numéro 2, je ne me trompe pas, su être extraordinairement bon pour les Devils de Jersey et surtout a réussi à voler le match numéro 3 où les Rangers avaient clairement été l'équipe supérieure et encore une fois hier a été excellent en arrêtant 22 des 23 tirs dirigés contre lui. Et Tom, selon toi, est-ce que Schmid est en train de voler cette série-là pour l'instant aux Rangers? Parce que ça aurait pu clairement se terminer en 4 ou en 5 matchs si Vanecek est encore devant les filets.
Ben, Schmid a bien... a bien collé depuis deux matchs, mais je ne dirais pas qu'il vole la série en tant que tel. Je pense que c'est un gros move de Lindy Ruff d'avoir décidé de laisser, de le mettre après le deuxième match. Puis présentement, cette décision-là semble porter fruit. Évidemment, je le garderais starter pour le cinquième match, Schmidt. Il a mérité, mais je pense que Vanecek reste le numéro 1 quand même.
Ben écoute, ça va être très difficile pour Vanecek. Je pense pas que Vanecek, on va le revoir dans cette série-là pour l'instant, à moins d'une contre-performance extraordinaire de Schmid au match numéro 5 ou peut-être match numéro 6. Je crois que Schmid réussi à, un peu comme Gustafsson dans la série entre le Wild et les Stars, à vraiment voler le poste pour l'instant de Vitek Vanecek.
Mais Gustafsson, par contre, si tu me permets, c'est le numéro 1 au Minnesota, en fait. C'est 50-50, en fait. Au Minnesota, alors que Vanecek, c'était le partant dessiné depuis début d'année.
Oh my God. Mais merci de la précision, Tom. Tom, selon toi, est-ce que les New Jersey ont vraiment le momentum dans cette série-là ou tu crois que ça peut se rendre jusqu'à presque la limite?
Je serais pas surpris que ça se rende à la limite, même si New Jersey a le momentum présentement. Je pense que de remporter 4 matchs à suivre, ça va être très difficile. Les Rangers, devraient se réveiller lors des prochains matchs. Devraient sortir meilleurs que ce qu'ils ont fait dans les derniers matchs. Je serais pas surpris que ça se rende dans cette série-là.
Écoute, moi, j'avais pris les Devils pour remporter cette série-là en 6 matchs. Écoute, c'est encore en vie. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais écoute, si on regarde les deux premiers matchs du côté New Jersey, les Rangers avaient clairement été l'équipe supérieure. Et là, pour les deux matchs suivants, les Devils ont été capables de gagner deux gros matchs côté du Madison Square Garden. C'est quand même une des arénas que c'est plus difficile de remporter des matchs, surtout en séries éliminatoires. Donc, les Devils ont vraiment fait preuve de caractère. Un seul bémol, je trouve, c'est qu'encore une fois, au niveau de l'attaque, bon, Jack Hughes va très bien. Mais quand même, quand tu regardes les marqueurs du côté des gros canons des Devils de New Jersey, il y a seulement Jack Hughes qui a marqué, André Pallette qui a marqué son premier but hier dans le filet désert, et Eric Haller. Sinon, le reste, c'est des Dougie Hamilton ou Segan Thaler hier qui a été excellent. C'est clair que du côté des Devils de New Jersey, il faudra avoir une plus grande production offensive de la part des gros canons, que ce soit Jasper Brad, Timo Meier qui ont été cherchés du côté des Sharks de Saint-Rosée, leur capitaine Nico Hischier et même Dawson Mercer qui a connu une excellente saison. Ce sont quand même des morceaux qui doivent produire davantage pour les Devils de New Jersey. Si c'est ça, les Devils vont avoir une meilleure chance de peut-être voler cette série-là aux Rangers de New York, alors que les Rangers avaient clairement bien commencé cette série-là. Bon, Tom, maintenant on va parler de l'autre match dans l'Est. Match numéro 4 entre le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto. Match spectaculaire. Faut dire, mesdames et messieurs, le Lightning de Tampa Bay menait 4-1 en début de troisième période. Et par la suite, les Maple Leafs ont créé une remontée, notamment avec Austin Matthews qui a marqué deux buts coup sur coup, dont un en avantage numérique. Et avec moins de 4 minutes à faire à la rencontre, Morgan Rielly, qui avait marqué le but gagnant lors du match numéro 3, a créé l'égalité 4-4 dans cette rencontre-là pour amener cette rencontre-là en prolongation pour un deuxième match consécutif. Et encore une fois, les Maple Leafs ont été capables de soutirer la victoire du côté du Amalie Arena grâce à un but d'Alex Kerfoot qui a dévié le tir de Mark Giordano en avantage numérique pour offrir la victoire aux Maple Leafs de Toronto et donner juste comme ça une avance de 3-1 au Maple Leafs de Toronto. Tom, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Est-ce que c'est le Lightning de Tampa Bay qui a complètement échappé en troisième période ou c'est vraiment les Maple Leafs de Toronto qui ont fait preuve de caractère?
Ce mélange les deux, je dirais. D'un côté, les Leafs qui, encore une fois, j'en parlais à retour en force, remportent un match qu'ils n'auraient pas remporté les années d'avant. Vraiment, c'est un chapeau à eux. Ils ont fait preuve de caractère. Ils ont remonté. On n'a pas baissé les bras. Même moi, après la deuxième, j'étais comme, bon, on va retourner à Toronto avec une série 2-2. Ça va être une bonne série. Justement, Lightning qui a échappé, qui a été un peu complaisant, je dirais. Oui, attaquer quand même le filet de Samsonov. Mais c'est pas des grosses chances de marquer, alors qu'il aurait pu mettre le match hors de portée des Leafs. Matthews qui s'est décidément réveillé lors de ce match-là. Grosse performance, deux buts. Rielly qui marque encore un but clutch à la fin du match. Vraiment, chapeau aux Leafs. Tu remarques qu'il y a vraiment une différence entre les Leafs de cette année et les Leafs des années d'avant. Ils ne semblent pas se décourager aussi facilement. On a un plus grand désir de vaincre, un killer instinct, si tu veux. Puis vraiment, je pense que c'est, c'est ça qui fait la différence. En plus du fait que Lightning, c'est une équipe moins complète qu'avant. Puis sa fatigue commence à rattraper vraiment. Tu sens Vasilevski, depuis quelques matchs, c'est difficile. Puis ça commence à apparaître dans le jeu de Lightning.
Ouais, ben c'est ça, tu viens de le mentionner, c'était l'autre point que je voulais apporter. Les performances un peu décevantes d'André Vasilevski depuis le début de ces séries éliminatoires, quand même. Moins de buts alloués de 4,33 et un pourcentage d'arrêt de 880, de 856. C'est loin des performances des dernières années d'André Vasilevski, qui était quand même considéré comme un des meilleurs gardiens de but. Non seulement au monde, mais en plus dans l'histoire de la NCAA hockey lors des séries éliminatoires, a vraiment connu lors des 3 dernières années des performances sensationnelles en séries éliminatoires. Et là, en ce moment, est-ce que c'est Vasilevski qui est complètement fatigué dû au nombre de matchs joués depuis au moins les 3 dernières années ou c'est vraiment juste la défense du Lightning qui est un peu amochée? Bon, il faut le rappeler, il joue sans Eric Chernak. Non pas Ryan McDonald comme il l'avait lors des dernières années. Victor Hedman aussi joue probablement avec une blessure. Donc, est-ce que c'est vraiment Vasilevski qui joue en deçà de ses performances habituelles ou c'est vraiment le Lightning de Tampa Bay à une équipe générale qui est juste fatiguée puis qui défend de moins en moins bien dans cette série?
Ben écoute, c'est sûr qu'il y a des blessures, puis la perte de McDonough, ça aide pas à la défensive du Lightning. Puis je pense que c'est du côté des Leafs, on a trouvé le casse-tête, on a résolu le casse-tête de Vasilevski. On connaît ses faiblesses, là. On sait comment scorer sur lui, là, tu sais. À part, je me trompe pas, le premier match de la série contre les Leafs, l'an dernier, il n'y a pas eu un match où est-ce que Vasilevski s'était vraiment fait ouvrir comme le deuxième match de la série jeudi passé. Je pense que ça y a peut-être joué dans la tête aussi, là.
Ouais, c'est certain, Tom, tu amènes un super de bon point. Bon, Thomas, maintenant, les Maple Leafs de Toronto se retrouvent avec une avance de 3-1, se retrouvent à un match de peut-être gagner une première ronde en 19 ans. Est-ce que tu penses que la malédiction va se terminer au prochain match ou lors du match, ou peut-être match numéro 6 ou match numéro 7?
Je sais pas, hein, parce que d'un côté, parier pour les Leafs, c'est toujours une tâche périlleuse parce que tu sais qu'il y a tout le temps un pourcentage de chance qui te choque. On s'en rappelle bien ce qui s'est passé en 2021. Mais en même temps, ils ont le momentum dans les voiles. Tu sais que c'est une équipe différente comparativement aux autres années, honnêtement. Je pourrais pas dire. J'ai envie de dire qu'ils osent ça. La prochaine game, c'est quand jeudi. Ouais, jeudi. Mais je serais pas surpris que ça aille plus loin non plus.
Oh, OK. Ben écoute, Tom, tu as amené des bons points. C'est vrai que les Maple Leafs, au cours des dernières années, n'ont pas été excellents en saison 3, surtout pour closer. Si on prend juste les 2 dernières années, l'an passé, s'est retrouvé avec une avance de 3-2 à Tampa Bay et également avec une avance lors du match numéro 6. Ils ont trouvé le moyen de perdre la série. 2021, c'est encore pire. Menait 3-1 contre les Canadiens de Montréal qui n'était pas une équipe qui n'était pas une des équipes favorites pour se rendre jusqu'au bout et ont quand même échappé cette série-là de façon spectaculaire. Mais comparé aux 2 dernières années, je trouve que cette année, je trouve que les chances sont plus favorables pour que les Maple Leafs de Toronto puissent se qualifier en deuxième ronde. Il y a le facteur Ryan O'Reilly aussi que j'en ai parlé je pense, c'était le dernier épisode ou l'autre, celui d'avant. Ryan O'Reilly, déjà, ça vient changer la donne. Tu as Morgan Riley aussi qui est extraordinaire depuis le début des séries éliminatoires pour les Maple Leafs.
La profondeur aussi est là, là.
La profondeur,
Comparativement aux
ouais.
années.
C'est ça, tu sais. En plus, imagine-toi, Malcolm Bunting, qui n'est pas un mauvais joueur, qui a été supposé dans le tournoi des matchs, son absence n'a pas paru du tout pour les Maple Leafs. Puis écoute, défensivement, ça va quand même bien. Samsonov fait le travail. Bon, des fois c'est plus difficile pour Elias Samsonov, mais Il fait quand même bien le travail, je trouve, plus que Jack Campbell ou que Frédéric Anderson. Donc, je pense que pour vrai, ce ne sera peut-être pas au prochain match, mais moi, je pense que match numéro 5 ou match numéro 6, les Maple Leafs de Toronto vont faire taire leurs détracteurs et vont se qualifier pour le prochain tour pour la première fois depuis 2004. Ça va être probablement la fin d'un mime, en tout cas d'un mime qui est devenu légendaire ici à Montréal. Mais,
bon, écoute, je suis sûr que ça va continuer quand même, malgré... C'est 19 ans sans gagner une ronde de série. Là. Même si t'as fini par en gagner une, tu t'en rappelles. T'sais.
Ouais, c'est ça. Mais dis-toi que le prochain défi des Maple Leafs, s'ils réussissent à se qualifier au second tour, c'est probablement les Blues de Boston. Donc, est-ce que c'est tant un cadeau que ça? Je doute un peu. Je doute un peu. Bon, Tom, maintenant, on va se déplacer du côté de l'Ouest. Cette fois-ci, du côté de Winnipeg, alors que les Golden Knights et les Jets de Winnipeg s'affrontaient lors du match numéro 4. Bon, Vegas menait 2-1 dans cette série-là et ont réussi à remporter le match numéro 4 par la marque de 4-2. Dont ils mènent la série 3-1 et peuvent terminer ça. Ils peuvent terminer cette série-là du côté de Vegas. Les marqueurs pour les Golden Knights, Brett Auden qui a marqué 2 buts, William Carson qui a marqué 1 but et également Ivan Barbashev qui a marqué son premier but dans cette série éliminatoire-là. Les deux marqueurs du côté de Winnipeg, c'est 2 buts en avantage numérique, Blake Wheeler et un but très chanceux de Pierre-Luc Dubois, ou que je crois que c'est Alex Pietrangelo qui a dévié. Alex Pietrangelo ou Shea Theodore qui a dévié. Exactement. Tom, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là en général? Vas-y, je te laisse parler.
Ça m'étonnerait bien gros que les Golden Knights perdent la série. Après ça, on savait que ça allait être difficile avec la perte de Maurice pour les Jets, mais vraiment. Les Jets sont sortis un peu, j'ai envie de dire, flat. Hein. À 55, on rien fait du tout. On n'a pas vraiment créé des grosses chances de marquer. On n'a pas marqué, évidemment, du but en powerplay. Puis là, en plus, t'as Shifley qui s'est blessé. Est-ce qu'il va être blessé à long terme? Wow, tout le monde pour le reste de la série, on ne sait pas encore, mais ça regarde mal pour Winnipeg après ça. Là.
Ouais, c'est sûr. Puis écoute, c'est pas compliqué du côté des Jets de Winnipeg. T'as 3 morceaux importants qui sont absents. Là, tu viens de mentionner qu'il y a Mark Shafley qui vient de se rajouter dans la liste, mais t'as Josh Morrissey qui est ton meilleur défenseur, qui va être probablement un des finalistes au Trophée Norris, qui a connu une saison extraordinaire. Puis t'as Nicolas Ehlers aussi qui est absent du côté de Winnipeg. Donc, tu as quand même 2 joueurs de ton top 6 plus ton défenseur numéro 1 qui sont absents du côté de Winnipeg et tu perds la série 3-1. Puis, pour remporter la série, tu dois remporter tes 3 prochains matchs, dont 2 à l'extérieur. C'est extrêmement difficile pour les Jets de Winnipeg. Bon, du côté de Vegas, au moins, je trouve, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel, mais je trouve que les Golden Knights joue un jeu plus fluide, surtout plus calme, depuis que Mark Stone est de retour au jeu. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Ça apparaît que Mark Stone est là et c'est un facteur qui est assez incroyable pour les Golden Knights. Parce que quand même, les Golden Knights, leur gardien en ce moment, là, c'est Laurent Brossoit. C'est pas un bon gardien de but. Là. C'est pas un mauvais gardien de but, mais c'est pas un vrai gardien de but numéro 1 comparé à Winnipeg qui ont quand même connu le bac. Donc, c'est pas une équipe aussi puissante que Vegas a eu au cours, mettons, si on passe à 2021 ou 2020 ou 2019, ou même 2018 dans la première année dans l'Angleterre d'Hockey. Je trouve que Vegas, c'est une équipe qui est quand même bien construite en général, mais quand même, il y a des lacunes qu'on n'avait pas vues au cours des dernières années. Puis en ce moment, ils se débrouillent très bien et probablement qu'ils vont, moi en tout cas, à mon avis personnel, vont terminer cette série-là du côté de Vegas. Je vois pas comment les Jets de Winnipeg, surtout que les Jets de Winnipeg, ont une saison en dents de scie avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Je vois pas comment, avec autant de blessures, les Jets puissent gagner 3 matchs consécutifs, dont 2 à l'extérieur.
Ben écoute, du côté de Vegas, c'est sûr que quand c'est un joueur, la trame de Mark Stone qui revient dans ton alignement à temps pour les séries, c'est sûr que ça va avoir un boost, une influence sur ton équipe, sur ton jeu. Vraiment, c'est une excellente équipe, on s'entend. Un très bon line-up. Puis du côté des Jets, ben, tu l'as dit, écoute, on a fini l'année de manière très très décevante. Ça s'est demandé si je voulais le spot en série parce que ça a passé vraiment proche qu'il ne fasse pas. Alors que, tu sais, on se rappelle à la pause des fêtes, il était à la tête de la division centrale. Ou proche de la tête. Donc ça, vraiment une très mauvaise deuxième moitié de saison. Avec les blessures, je pense que du côté des Jets, c'est vraiment. C'est vrai. Ils sont pas arrivés en série de la bonne façon non plus. T'sais.
Non, t'as parfaitement dit. Bon, le match numéro 5 va avoir lieu, je crois, jeudi, même pas vendredi, non, jeudi prochain, du côté de Vegas. Donc, ça va être intéressant de voir si les Golden Knights vont se qualifier pour le prochain tour ou si Winnipeg va pousser ça pour un sixième match. Bon, maintenant, parlons du dernier match qui a eu lieu lundi soir. Celui entre le Kraken de Seattle et l'Avalanche Colorado du côté de Seattle. L'Avalanche menait 2-1 à cette série-là et le Kraken a sorti toute une performance hier soir. A réussi à remporter ce match-là par la marque de 3-2 en prolongation. Bon, les marqueurs pour le Kraken, t'as Bargan qui a marqué, Will Bargan qui a marqué son premier but dans sa carrière en séries éliminatoires. T'as Daniel Sprong également qui a marqué un avantage numérique et Jordan Eberle a marqué les buts en prolongation. Encore une fois, Jordan Eberle qui a toujours été un joueur très décisif dans sa carrière, que ce soit autant junior qu'au niveau professionnel, a réussi à marquer le but en prolongation pour offrir une victoire importante au Kraken de Seattle. Eux qui nivellent la série 2-2, puis que la série va se transporter du côté du Colorado, à côté de Denver, et le marqueur avec un doublé du côté de l'Avalanche Colorado, c'est Mikko Rantanen qui a été excellent encore une fois hier soir. Bon, avant de parler de la rencontre en général, on a appris quelques minutes avant le début de l'épisode que Cale Makar a été suspendu pour le prochain match, va rater le match numéro 5 pour une mise en échec très tardive à l'endroit de Jaren McCann hier soir. Au départ, Cale Makar avait obtenu 5 minutes de pénalité et par la suite, les arbitres se sont ravisés et ont changé le 5 minutes pour donner 2 minutes d'avantage numérique au Kraken de Seattle et le Kraken en a profité pour marquer un but sur cette séquence-là. Tom, selon toi, est-ce que cette situation de Makar est méritée et justifiée ou ça aurait pu être plus sévère ou même moins sévère?
Ben, honnêtement, oui, la suspension était méritée. Je pense que cette mise en échec-là avait pas sa raison d'être. T'sais, oui, je comprends l'idée de vouloir de pousser un peu whatever, mais de l'étamper dans la bande alors que la puck était aucunement proche de là. C'était un geste complètement inutile. Par contre, contrairement à toi, je pense pas que ça méritait d'être plus que ça. Un match, quand même, c'est justifié pour un geste à la sorte. Donc, c'est sûr que c'est une grosse perte pour le Kraken aussi. McCann qui s'est blessé devrait manquer les deux prochains matchs de la série. C'est une grosse part pour Kraken, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, Kraken, qui a vraiment sorti fort lors de cette rencontre-là. Puis, pour la première fois de la série, tu sentais que c'est une rencontre de série. Ça a brassé, l'intensité a monté. Puis, j'ai pas envie de te dire le chef que cette série-là avait besoin parce que. T'sais, on ne souhaite jamais pour une blessure, mais je crois que cette série était un peu plate, un peu. Puis ça fait monter l'intensité.
Ouais, ben écoute, comme je t'avais mentionné Tom avant l'épisode, pour moi, je pense que Makar méritait peut-être. Moi, j'aurais donné 2 matchs de suspension à Cale Makar. Un geste inutile. La rondelle était même pas proche. C'est pire que de l'obstruction. Une mise en échec, il y a une intention. Peut-être qu'il n'y avait pas une intention de me blesser. Mais le résultat a été fatal pour McCann qui va probablement rentrer
dans le match fatal, numéro 5.
Il est pas mort. Non, mais fatal. OK, non, il n'est pas mort. Mais quand même, reste que Jaren McCann, tu retires un marqueur de 40 buts sur un geste qui, à mon avis, est un geste gratuit et inutile. Pour moi, Makar méritait plus qu'un match de suspension, mais vu qu'il n'est pas récidiviste et surtout que c'est un joueur vedette, je pense qu'Anissa Donquet est un petit peu plus clément à son endroit et lui a donné un match de suspension qui clairement était mérité, mais pour moi, à mon avis personnel, ça méritait plus qu'un match de suspension, peut-être deux, mais hâte de voir ce qui va se passer pour l'état de santé de McCann, parce que Jaren McCann va probablement rater le match numéro 5 et on ne sait pas s'il va revenir pour le match numéro 6 du côté du Kraken des Sator. Bon, maintenant, analysons le match, Tom. Le Kraken, clairement, a été l'équipe supérieure hier soir. Là, quand même 43 tirs dans cette rencontre-là. 40 arrêts de Georgiev qui a été extraordinaire pour l'Avalanche Colorado. Mais clairement que le Kraken de Seattle a été l'équipe nettement supérieure hier soir et pour moi, clairement mérité sa victoire contre l'Avalanche Colorado. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, vraiment. Puis du côté de l'Avalanche, on a marqué deux beaux buts. Rantanen, en fait, je me rappelle le deuxième but, l'Avalanche contrôlait nettement le jeu lors d'avantages numériques. Mais vraiment, c'est une performance défensive incroyable du côté du Kraken. Plusieurs tirs bloqués. Après la deuxième période, je pense que l'Avalanche avait seulement 9 tirs. Et on termine la rencontre avec 22 tirs comparativement à 43 du côté du Kraken. Donc vraiment, gros travail défensif du côté de Seattle. Une performance de série, vraiment. Et c'est ça qui a fait la différence.
Je voulais juste rajouter que cette série-là, au final, elle est tellement plus équilibrée que ce qu'on s'attendait. Il y a beaucoup de personnes qui avaient pris l'Avalanche Colorado pour non seulement remporter cette série-là, mais aussi que ça se termine plus tôt, que ce soit en 5 matchs ou en 6. Mais là, cette série-là va se rendre minimum un match numéro 6, voire peut-être un match numéro 7. Moi, je pense, honnêtement, si on regarde l'intensité des deux équipes, je pense que cette série-là peut se rendre à la limite et peut-être que ça va être la surprise de la première ronde. Peut-être que l'Avalanche Colorado peut perdre le match numéro... perdre cette série-là. Hâte de voir qu'il soit sur ça au match numéro 5 parce que là, tu te retrouves sans Cale Makar puis déjà que tu as une équipe qui n'a pas Gabriel Landeskog. Et là, on ne sait pas. Je pense que Valérie Nichkine va être de retour pour le match numéro 5.
Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas, il est où
pour l'instant. Il a été absent dans ce match numéro 4 pour des raisons personnelles, pour l'instant.
On ne sait pas, il est où. Fait que c'est ça qui est dur à dire pour Nichkine. Mais sûr que là, la paire, Landeskog qui n'est pas là, Makar qui est suspendu, Nichushkin qui n'est pas là. Colorado, tu commences à perdre beaucoup de joueurs clés de ce côté-là. C'est sûr que ça ne va pas être facile. Mais ça m'étonnerait beaucoup que Colorado perde cette série-là. Honnêtement.
Ben écoute, on ne sait jamais. Là, le Kraken a fait preuve de beaucoup de résilience et surtout aussi beaucoup de. Ils n'ont pas peur, en fait. Là, c'est pas compliqué. C'est une équipe qui n'a pas peur et qui n'a rien à perdre. Puis ça, c'est le fun de voir des équipes qui n'ont rien à perdre et qui performent parce qu'ils savent que genre ils n'ont rien à perdre et qu'ils ne veulent pas perdre. Et que c'est pas grave s'ils perdent cette série-là. Eux qui sont clairement l'équipe négligée. Puis c'est quand même intéressant parce que je trouve que moi, la beauté du Kraken, c'est vraiment l'équilibre. McCann était blessé. Mais t'as un gars comme Jordan Eberle, t'as un Daniel Sprong qui a marqué un avantage numérique hier sur un beau tir de la pointe. T'as des joueurs comme Brendan Tanev, un joueur que moi j'ai adoré à Pittsburgh, qui est un joueur fait sur mesure pour les séries éliminatoires. T'as un gars comme, encore une fois, Jaden Schwartz qui est encore un excellent joueur, là, à ce que je sache. Je crois qu'il a remporté une course cette année du côté de Saint-Louis, si je ne me trompe pas, non, Jaden Schwartz, non?
Oui.
Ouais, c'est ça, en 2019. Donc, c'est une équipe qui est vraiment équilibrée, celle du Kraken de Seattle. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qui se passe pour la suite des choses. Mais c'est une série qui est beaucoup plus équilibrée à ce que je m'attendais, moi, au début de la semaine dernière. Donc, c'est à peu près ça qui ressemble pour les matchs numéro 4 qui ont eu lieu lundi soir. Bon, Tom, ce soir... Il y a trois matchs. Un du côté de l'Est, match numéro 5 entre les Islanders de New York et les Hurricanes de Caroline qui va avoir lieu du côté de Raleigh. Les Hurricanes de Caroline peuvent devenir la première équipe à se qualifier pour la ronde suivante. Après ça, deux matchs à l'Ouest, deux matchs numéro 5, deux séries qui sont égales 2 à 2. La première, c'est celle entre les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota. Deux équipes très équilibrées qui ont été capables de remporter des matchs à l'extérieur. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans cette rencontre-là. Et la dernière, celle à 21h30, heure de l'Est. Le cinquième match entre les Oilers de Edmonton et Kings Angeles. Une série spectaculaire. Beaucoup de revirements de situation, que ce soit en match numéro 3 avec le but controversé de Gabe Vilardi ou le dernier match, le match numéro 4 où que, les Oilers ont remonté la pâte alors qu'ils perdaient 3-0 en première période. Tom, pour toi, quel match va susciter le plus ton attention?
Edmonton Haley, sans aucun doute. La série Caroline Under, c'est une des séries les moins excitantes que cette année, du moins, c'est pas dans les autres années aussi. Il n'y a rien qui m'attire vers cette série-là, honnêtement. Puis je sais que ça va faire ton bonheur puis que t'aimes pas les Islanders. Mais du côté de Dallas, Minnesota, c'est une série que j'aime beaucoup. Beaucoup d'intensité dans cette série-là. Beaucoup de back and forth aussi. Ça suscite mon attention, mais vraiment, Oilers Kings, surtout avec le match 4 qui s'est passé dimanche, en fait, tout ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, je pense que c'est la série à surveiller pour moi, avec celle de Toronto, évidemment. Deux grosses séries au Canada, en tout cas.
Yes, t'as parfaitement raison. La série entre les Oilers de Edmonton et les Kings de Los Angeles est une des séries les plus excitantes, à mon avis, depuis le début des séries éliminatoires. C'est comme deux équipes très différentes avec leur propre force. On parle des Oilers de Edmonton et leur machine offensive. C'est une équipe qui est incroyable, surtout sur l'avantage numérique. Je pense qu'ils ont comme 60% d'efficacité en avantage numérique, ce qui est absolument hallucinant qu'on y pense. Les Oilers de Edmonton qui marquent des buts à beaucoup d'occasions en avantage numérique. Donc ça, c'est assez extraordinaire de voir ça. C'est quand même le meilleur avantage numérique de l'histoire de la Ligue nationale de hockey en saison régulière. C'est celui des Oilers de Edmonton. Donc, c'est une équipe qui est pas intéressante. Puis celle des Kings de Los Angeles, c'est une équipe tellement bien équilibrée. T'as des trios qui ont été capables de contrer McDavid et Drysdale en grande partie à 5 contre 5. Avec le trio de compétiteurs et le trio de Philippe Dano qui ont fait de l'excellent boulot. Et également, t'as Corpissalo qui est enfin un gardien but numéro 1 que les Kings de Los Angeles avaient besoin depuis Jonathan Quick. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans cette série-là. Encore une fois, moi, j'ai l'impression que cette série-là va se rendre à la limite. Tom, t'as également touché un bon point avec la série entre le Wild du Minnesota et les Stars de Dallas. C'est une série qui, encore une fois, je l'ai mentionné, c'est une série qui est très équilibrée. Et en plus de ça, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le dossier de Joe Pavelski. Hâte de voir s'il va revenir pour le match numéro 5 ou peut-être le match numéro 6. Ça ferait toute une différence pour les Stars de Dallas parce que Joe Pavelski est un morceau hyper important de leur attaque. Donc ça va être hyper intéressant. Puis écoute, pour la série entre les Hurricanes de Caroline et les Islanders de New York, moi, je m'excuse. Mais cette série-là va se terminer ce soir. J'espère que cette série-là se termine ce soir parce que les Islanders de New York jouent en deçà des attentes. Oui, tu as beau avoir un gardien de but excellent, Elias Sorokin, mais quand tes deux meilleurs joueurs offensifs ne produisent rien en Barvat et Matt Barza, pour moi, ça veut tout dire. Fait que c'est pas
les Islanders vont commencer aux Canadiens de l'époque du 2017 à peu près.
À peu près, c'est ça. Une équipe qui ont des problèmes offensivement. Défensivement, ils se débrouillent très bien.
Ils ont un gardien excellent.
Fait que moi, j'ai vraiment l'impression, à moins que les Hurricanes décident de ne plus jouer au hockey pour les trois prochaines rencontres, je serais vraiment surpris que la Ligue de New York revienne dans cette série-là. Puis, hâte de voir qu'il soit possible ces trois rencontres-là, mais ça va quand même trois rencontres que je l'espère vont être intéressantes. Mais c'est sûr que moi, je vais avoir mon attention un petit peu plus sur les deux matchs dans l'Ouest, notamment celui entre les Oilers d'Edmonton et les Stars de Dallas. Écoutez, mesdames et messieurs, ceux qui complètent ce nouvel épisode d'Au Premier Loge spécial séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Encore une fois, Thomas, merci beaucoup d'être venu pour cet épisode-là. Comme d'habitude, ça a été un plaisir. Hein?
Ben oui, c'est toujours un plaisir d'être avec toi.
Yes, sir, merci. Et on se retrouve très vite à la maison pour un autre épisode de Première Loge où on va encore une fois analyser les trois rencontres qu'on vient tout juste de mentionner dans NCAA Hockey. Au nom de toute l'équipe, je suis Douane Ibrahim et on se voit très rapidement pour un prochain épisode de Première Loge. Salut tout le monde.